Mesdames et messieurs, bonsoir. Des éléments appartenant à la milice Front des résistants patriotiques de l'Ituri, FRPI, ont attaqué samedi dernier une position FRDC aux alentours des Abeba en Ituri. Le bilan selon les FRDC est de 14 miliciens tués. Aucun décès ni des blessés enregistrés du côté des FRDC. Cependant, deux casques bleus du contingent Bangladeshi de la MONUC ont été grièvement blessés. C'est la deuxième attaque des miliciens contre les positions FRDC en Ituri en l'espace d'une semaine. Que se passe-t-il sur le terrain? Comment stabiliser la situation à quelques jours des élections? Des questions qui préoccupent nos auditeurs qui sont déjà nombreux à nous écrire. Ainsi, Lucien Sengui Dissiro, en province orientale, pense qu'il est indispensable qu'une délégation des autorités chargées de la sécurité descende à Bounia pour une négociation avec les chefs des milices. Sinon, il y a risque que le second tour des scrutins ne se passe pas en Ituri. Un auditeur anonyme écrit ceci: la population de l'Ituri est fatiguée de la guerre. Un autre encore dit: pour que les élections se déroulent en paix en Ituri et partout en RDC, il convient que la MONUC double d'efforts pour sécuriser les territoires à problème. Justin 11 à Kinshasa pense par contre que c'est un problème d'incompétence. Il faut des autorités à même de mettre fin à ces problèmes de guerre. Et depuis Bounia, Lochanga Norbert demande si le gouvernement n'est pas complice dans cette situation de l'Ituri. Et dans quelques instants, les réponses à toutes ces préoccupations et autres questions de nos auditeurs avec M. Adolphe Onosumba, ministre de la Défense, le lieutenant-colonel Stéphane Lescofit, porte-parole militaire de la MONUC, Charles Boyeka, porte-parole des FRDC en Ituri, et le colonel Jacques Ebenga, expert militaire et colonel honoraire.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-999-222.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui nous suivez en ce moment et bon début de semaine chez vous. Affrontement le week-end dernier entre les forces armées de la RDC et les miliciens du Front des Résistances Patriotiques de l'Ituri, FRPI, à Montaoui. Ce village est situé aux alentours des Aveba, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bounia. Selon les FRDC, il y a eu 14 morts du côté des miliciens et aucun blessé dans le rang des FRD, des forces régulières. Le contingent bangladeshi de la MONUC a enregistré, lui, deux blessés graves. Alors Georges Kamudjova a joint à Bounia notre confrère Jean-Paul Bassila pour connaître la situation sur le terrain suivant leur conversation.
Jean-Paul Bassila, bonsoir.
Bonsoir Georges Kamudjova.
Est-ce que ces affrontements ont continué ce lundi?
Pour le moment, Georges, il y a accalmie. C'est depuis samedi soir que le FRDC déclare avoir repoussé le milicien qui se serait retranché présentement vers leur base à Tchéi, environ 50 km au sud de Bounia.
Et les FRDC, où seraient-ils positionnés actuellement?
Le FRDC actuellement occupe tout le mont Aoui, qui est d'ailleurs la colline la plus élevée dans cette partie de l'Ituri.
Mais est-ce qu'on sait ce qui était à la base même des affrontements?
Difficile de dire avec exactitude, Georges, le motif réel de ces accrochages. Ce qu'il faut retenir est qu'au cours des deux derniers week-ends, le FRDC déclarait avoir connu les attaques de miliciens du FRPI des Cobra Matata. Et il y a 8 jours encore, le FRDC se sont affrontés avec le milicien du FRPI, cette fois-là à Singo, village qui abrite un important chantier d'exploitation artisanale dès lors. Et dans ces combats, le FRDC ont perdu, Georges, 2 militaires et elles ont également connu 7 blessés. Et il y a eu, toujours selon le FRDC, 12 morts du côté des miliciens.
Oui, c'est le FRPI qui est cité dans les derniers accrochages avec les FRDC, mais que sont devenus les autres groupes armés comme le mouvement révolutionnaire congolais et le front de nationalistes et intégrationnistes?
Il y a le mouvement des révolutionnaires congolais, ou le MRC, qui a déjà rassemblé une partie de ces hommes à Zoumbé, à une dizaine de kilomètres de Bounia. Selon Mathieu Ngoudjolo, le leader du MRC, ces hommes attendent les mots d'ordre du gouvernement pour rejoindre le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion, ou le PNDDR. Mais du côté du Front des nationalistes et intégrationnistes, ou les FNI de Peter Karim, les deux dernières semaines, l'on a connu aussi des accrochages entre d'abord son groupe, non seulement avec l'armée gouvernementale, mais aussi avec les éléments du MRC.
Et pourquoi ces deux milices se sont affrontées?
D'abord, commençons par les accrochages avec le FARDC. Peter Karim nous a confié au téléphone que c'était des éléments indisciplinés de son groupe qui étaient à la base de cet incident. Mais avec le MRC, les deux milices se rejettent la responsabilité, l'une comme l'autre, estimant que sa zone de cantonnement a été violée.
Les chefs de toutes ces milices encore actives en Ituri avaient signé pourtant un accord avec le gouvernement en juillet dernier. Est-ce qu'on sait ce qu'ils ont déjà tiré de l'accord en question?
Bon, effectivement, Georges, nous venons d'avoir une information selon laquelle Peter Karim du FNI et Mathieu Ngoudiolo du MRC viennent d'être nommés colonel de FARDC, donc tous les deux sont nommés colonels, par un arrêté signé le 2 octobre dernier par le ministre de la Défense des Mobilisations Anciens Combattants. Et aujourd'hui, nous avons personnellement contacté au téléphone les conseillers militaires du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la sécurité. Il nous a confirmé cette information.
Merci beaucoup Jean-Paul Bassila et bonne soirée à Bounia.
Merci Georges.
Alors avant de poursuivre cette émission, nous accueillons donc dans ces studios M. William Swing, il est représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Bonsoir.
Bonsoir.
Et nous parlons effectivement des reprises, des affrontements à Ituri. Dans ces studios, comme nous vous l'avions annoncé, nous sommes avec également le porte-parole militaire de la MONUC, le lieutenant-colonel Stéphane Lescofit. Donc vous avez entendu parler de ces affrontements le week-end dernier en Ituri. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui se passe en ce moment dans cette partie de la RDC?
Oui, donc si on prend la situation actuelle, on peut dire que la situation s'est calmée, puisqu'il y a une action à la fois des FRDC soutenues par la MONUC sur le terrain, et les FRDC ont repris le mont Avi.
Donc la situation est calme.
Bah, mais la situation est contenue par les FRDC soutenues par la MONUC.
Est-ce que la situation, on peut dire qu'elle est tendue ou elle est calme?
Comprenez que quand il y a eu des affrontements, la situation est quelque peu tendue, mais elle est beaucoup moins tendue et elle est bien meilleure qu'il y a ne serait-ce que deux jours, samedi ou dimanche.
Alors qu'est-ce qui s'est passé samedi?
Donc samedi, nous avons reçu un compte-rendu comme quoi il y avait une action entre le FRPI et les FRDC. De ce fait, le bataillon bangladeshi a envoyé une patrouille un peu consistante. Et elle a fait, lors de sa progression, elle a été attaquée par justement le FRPI et il y a eu deux blessés chez nous.
Oui, un auditeur demande même si il n'y a pas un bilan du côté des FARDC car l'assaut était brusque. On parle des morts du côté des miliciens, on parle des deux blessés du côté de la MONUC, mais du côté des FARDC, rien. Alors cet auditeur s'appelle Mopenda à Bounia lui-même. Oui, monsieur le lieutenant.
Oui, si vous voulez, je ne vais pas commenter, je ne vais pas donner des chiffres que les FRDC n'ont pas donnés. Je ne peux pas imaginer les blessés qu'il y a pu y avoir. La situation est telle qu'il y a eu des morts du côté du FRPI et des blessés du côté de la MONUC. Pour le reste, nous n'en savons pas grand-chose.
Alors, monsieur William Swink, vous êtes donc le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies au Congo. Que pense la MONUC de cette reprise des hostilités en Ituri?
Bon, je dirais que c'est une action qui montre qu'on est, on approche la fin des affrontements en Ituri, dans le sens que oui, il y a les embuscades, il y a les accrochages qui viennent de temps en temps, mais la plupart partie de Ituri aujourd'hui est plus ou moins dans une voie comme les autres parties du pays. Une voie vers des élections. Il ne faut pas oublier que le peuple en Ituri, ils ont beaucoup souffert pendant les dernières 2-3 années. Ils ont perdu au moins 50 000 personnes. C'est la raison pour laquelle que la MONUC a sa plus grande déploiement en Ituri. On a notre plus grande brigade. C'est une brigade qui se chiffre entre 4 800 et 5 000 soldats. C'est là aussi où nous avons eu le plus de pertes de vie. Parmi les 35 soldats que nous avons perdus pendant les derniers 3 ans, plus que 2/3 sont les victimes des balles, des accrochages en Ituri même. Mais nous pensons qu'avec les efforts qu'on fait depuis un certain temps, qu'on approche la fin de cette période. N'oubliez pas qu'on a d'abord, ensemble avec le FARDC, avec l'UNICEF, avec le ministre de la Défense, avec Conader, on a pu démobiliser, désarmer 16 000 au début. Et pendant les derniers, depuis le 1er juin de cette année, on a ajouté encore presque 5 000, c'est-à-dire plus que 20 000 démobilisés et désarmés. Nous pensons, il reste les 3 groupes-là dont nous avons déjà parlé, le groupe de Peter Karim, le groupe de Cobra Matata et le groupe MRC de Mathieu Ngujolo. Comme un des lecteurs a déjà dit, ils sont en train maintenant de régler un peu leur statut avec le gouvernement. Et nous pensons, si on met tout ça dans un cadre politique, avec le soutien des FRDC par le gouvernement, avec les discussions directes avec les 3 chefs de milice, je crois qu'on peut envisager une période devant nous avec beaucoup moins de violence qu'avant.
Oui, Monsieur William Singh, nous allons peut-être revenir à vous pour voir le pourquoi même de ces affrontements ou de cette reprise des hostilités en Ituri. Le ministre de la Défense, on vient de nous signaler, est déjà en ligne. Monsieur Adolphe Onosumba, nous parlons ici de la reprise donc des hostilités en Ituri et nous aimerions savoir comment est-ce que vous expliquez ces attaques contre les camps des FRDC.
Bon, je merci d'abord de m'avoir accordé la parole et je remercie le représentant spécial qui a donné un aperçu plus ou moins correct de la situation telle qu'elle se passe. Vous savez que les groupes armés de l'Ituri ont à un moment donné kidnappé les casques bleus de l'ONU et comme l'a dit le représentant spécial, l'Ituri est la province ou la partie du Congo où on a connu le plus de pertes en vie humaine auprès des casques bleus et même des Congolais depuis le début de ces affrontements. Et ce qui se passe aujourd'hui n'est pas très explicable dans la mesure où les négociations qui ont débouché à la libération des casques bleus des Nations Unies qui ont été pris en Ituri ont abouti à ce que les engagements qui étaient pris par la partie congolaise soient honorés. Ce que nous sommes en train de faire, vous savez que Peter Karim, son grade a été reconnu, le grade de colonel comme il a demandé, et les autres membres de son état-major. Il y a la réunion de la commission de réforme de sécurité qui devrait avoir lieu, la réunion au cours de laquelle on devait échanger sur les dispositions à prendre pour pouvoir gérer ces gens-là en Ituri et les Maïmaï dans le Katanga. Je crois que le gouvernement, à travers le ministère de la Défense, est en train de développer un plan pour pouvoir gérer ces groupes en respectant les engagements qui ont été pris par les uns et les autres. Donc ici, nous invitons les groupes armés de l'Ituri à pouvoir respecter les engagements qui ont été pris par eux en vue de nous permettre d'aller vers la fin de tout le problème et toutes les difficultés que la partie de l'Ituri a connu.
Oui, monsieur le ministre, vous parlez notamment de la reconnaissance des grades. Vous avez parlé là de Peter Karim et nous avons appris aussi qu'il y a une reconnaissance des grades aussi pour Mathieu Ngujolo. Alors, mais le Cobra Matata dont on parle du FRPI, c'est lui qui a attaqué quand même dernièrement les camps des FRDC. À quand la reconnaissance de sa grade?
Bien, on ne peut pas reconnaître le grade de quelqu'un sans savoir ce qu'il veut. Peter Karim et Ngujolo, ce sont les gens qui ont fait partie des groupes qui ont négocié avec le gouvernement et la MONUC en Ituri. Cobra Matata était dans une localité, le Tchéi, où l'acheté était pratiquement difficile d'après le responsable de la MONUC pour des raisons de sécurité. Cela n'a pas été possible. Donc nous n'avons pas fermé la porte pour pouvoir parler avec avec ce monsieur-là, pour voir dans quelle mesure on peut donner la paix à l'Ituri et puis donner la chance à ce que tout le peuple congolais puisse s'exprimer, puisse choisir ses dirigeants.
Et pourtant, à ce que nous sachions, Cobra Matata aurait également accepté de signer ses engagements, ses accords avec le gouvernement en ce qui concerne la reconnaissance de son grade et notamment aussi le fait de regrouper ou d'amnistier ces hommes. Alors, on ne comprend pas votre réponse, monsieur le ministre.
Non, il y a les documents sur les négociations. Il y a le représentant du conseiller spécial des chefs de l'État, le représentant spécial adjoint de la MONUC, et qui ont négocié avec ces groupes armés, à moins que je m'abuse, comme la Matata a été celui qui n'a pas pu avoir le contact direct avec ses responsables. Et aujourd'hui, je ne pense pas que cet intendant des embuscades ou à Santaka ou FRDC qu'il va pouvoir avoir les dates. Encore que ce n'est pas... On ne fait pas une armée dégradée, mais on fait plutôt une armée des gens qui savent ce qu'ils veulent. Je ne dis pas que c'est dire qu'on ne veut pas parler avec lui, mais nous voulons donner la chance à la paix au processus.
Oui, et monsieur le ministre, encore une fois, d'aucuns pensent que ces attaques seraient liées au retard que le gouvernement a mis dans l'application même de ces accords signés avec ces miliciens.
Bon, je ne pense pas que cela soit totalement vrai dans la mesure où je vous ai dit que, bien sûr, lorsque le responsable de la cellule du conseiller spécial des chefs de l'État ont négocié, il y a d'abord les aspects des négociations qui devaient d'abord être réglés. Et jusqu'au moment où on nous a remis le document contenant les désirata du groupe de Peter Karim et de Mathieu Nkono, ce ne sont pas ces gens-là qui ont posé des problèmes, c'est plutôt comme la Matata qui n'a pas voulu négocier. Et donc je ne pense pas que cela soit ainsi. Néanmoins, nous sommes disposés à pouvoir parler pour que ce qui a été fait pour les autres puisse être fait pour lui. Mais ça risque de compliquer davantage sa situation si lui continue à poser des actes qui sont répréhensibles par la loi. S'il veut vraiment être un responsable au sein des forces armées de la République pour la Troisième République, il doit apprendre à observer une certaine discipline, puisque aujourd'hui, nous avons un problème où la formation militaire n'est pas uniformisée et on travaille pour que la fin de ce processus puisse être en vue de commencer la formation d'une véritable armée républicaine intégrée qui va assurer la sécurité et protéger tous les Congolais.
Alors, nous avons annoncé que dans ces studios, nous étions également avec le colonel Jacques Ebenga, qui est expert militaire et nous l'avions souligné, colonel honoraire. Alors, colonel Jacques Ebenga, comment comprendre que le RCPI des Cobra Matata reprenne les hostilités alors qu'il est parmi les trois groupes armés encore actifs en Ituri qui avaient signé des accords de cessez-le-feu avec le gouvernement congolais au mois de juillet dernier?
Bah, écoutez, c'est difficile à comprendre, effectivement, mais je rends d'abord hommage aux troupes congolaises et aux Nigériens qui ont subi le feu de ces diverses milices en Ituri. Pour dire ensuite que ce qui me désole dans tout cela, c'est une sorte de politique d'attentisme. Apparemment, l'initiative est prise par ces milices qui exercent un chantage sur l'État congolais en réclamant des grades. Et quand ce grade n'est pas obtenu, ils s'exercent à toutes sortes d'activités belligérantes qui vont jusqu'à nuire aux forces internationales. C'est ça qui est désolant. Et malheureusement, à chaque fois, j'ai l'impression que le gouvernement cède à ces exigences-là. Rappelez-vous, Gideon, Chinja Chinja et autres qui réclamaient des grades généraux. Et aujourd'hui, ce sont Peter Karim qui, après avoir commis ce qu'il a commis, a obtenu un grade de colonel. C'est pas un petit grade. Ce qu'il absout de tous les péchés, entre guillemets, crimes de guerre ou autres qu'il aurait commis. Je mets ça au conditionnel. Je vois maintenant, comme dit le ministre, que il y a l'autre qui, Cobra Matata, qui continue à faire le matata, c'est-à-dire à être en difficulté avec le gouvernement, peut-être parce qu'il n'a pas encore obtenu son grade, jusqu'à ce qu'il l'obtienne. Et ainsi de suite, nous aurons plusieurs cas de ce genre à régler et de manière interminable.
Vous voulez dire par là qu'ils font des pressions sur le gouvernement en s'attaquant au camp des FARDC pour obtenir leur grade?
Non seulement pour obtenir des grades, mais également pour avoir une considération qui les absout des crimes qu'ils auraient commis. Parce qu'il y a quand même cela qui pend. Alors j'ai l'impression qu'on est en train de les absoudre trop facilement en leur accordant les grades parce qu'on croit qu'une fois dans l'armée, ils seront devenus des gens tout à fait paisibles. Mais d'autres vont prendre ça comme exemple pour chercher des grades également par l'usage des armes contre les forces publiques, les forces de l'État et les religieuses. Et c'est ça qui est malheureux. Il faut donc une politique globale qui tente à mettre fin à cette affaire, à poser par exemple un terme définitif à ce genre de milice. Parce qu'au jour le jour, il n'y a pas de date limite d'intégration de l'armée, malheureusement, ici.
Oui, Monsieur William Singh, il y a un auditeur, il s'appelle Lucien Bouyou de Kamina au Katanga. Il dit comment une milice peut déstabiliser tout un gouvernement, les FARDC et la MONUC. Est-ce que ces autorités peuvent nous éclairer car nous ne semblons voir que le sommet de l'iceberg?
Moi, je dirais qu'ils ne sont pas en mesure maintenant de perturber le processus. Les accrochages, les embuscades, comme on a vécu ce week-end, ne sont pas un signe de faiblesse ou de faillite du processus. Bien au contraire, comme a dit le colonel, ils veulent attirer attention envers eux parce qu'ils ne sont pas partie du processus jusqu'à présent. Ils veulent être partie du processus, ne savent pas comment le faire peut-être, mais le fait qu'ils sont en dehors du processus, ils pensent qu'ils doivent faire des choses pour entrer dans le processus. Et c'est intéressant pour moi que l'attaque que nous avons subie le week-end, c'est une attaque par le seul chef de milice qui n'est pas encore dans ce processus.
Oui, mais Monsieur William Singh, la mission des Nations Unies au Congo a facilité les derniers accords entre le gouvernement congolais et les miliciens de l'Ituri. Mais vous avez quand même votre mot à dire là-dessus, parce qu'on observe quand même un certain retard. Si on répond aux uns, on ne répond pas aux autres, ça peut pousser aussi à ces attaques qu'on assiste.
Je crois que tout cela montre simplement qu'il n'y a jamais eu, il ne sera jamais une solution militaire sur les problèmes en Ituri. Ce qu'on fait en Ituri, le FARDC avec le soutien de MONUC, c'est très nécessaire, mais ça doit être toujours dans un cadre politique, et c'est ça que le gouvernement essaie de faire maintenant avec le groupe de travail qui négocie avec les chefs de milice pour arriver aux conditions de paix. Parce que militairement, c'est pas possible, il faut que ça soit ensemble avec les politiques.
Et Monsieur le ministre, la question donc se pose encore, comment stabiliser la situation avant le second tour des élections en Ituri? Comment éviter que, par exemple, ces miliciens de FRPI n'attaquent plus les camps de FRDC avant cette échéance?
L'ambassadeur Singh a dit au colonel Menga qu'on n'est pas dans l'attentisme en Ituri, où on attend pour réagir aux attaques de miliciens. Ce qui s'est passé, les négociations qui ont eu lieu, vous savez, il y a des éléments des Nations Unies de Népalais qui étaient pris en otage et on a négocié avec ces gens-là. Donc, il y a des éléments sur lesquels on a agi, non pas puisqu'on a estimé que ces gens-là étaient beaucoup plus forts que nous. Mais sur le plan opérationnel, il faut peser les effets négatifs, les avantages à tirer d'une attaque et les résultats, et ce qu'il faut faire, puisque dans beaucoup de cas, il y a la population qui est sympathique vis-à-vis de ces groupes sans savoir réellement ce que ces groupes-là font. Alors, maintenant, ce que nous devons faire comme gouvernement, c'est de renforcer les éléments qui existent, collaborer comme on l'a toujours fait avec la MONUC pour pouvoir comment faire en sorte que ces gens-là puissent ne pas continuer à commettre des actes. Vous savez, les embuscades, lorsqu'on les commet, c'est lorsqu'on n'a pas d'objectifs bien précis, mais on pose des actes pour attirer l'attention. Je ne pense pas qu'on va continuer à céder sous pression, mais de toutes les façons, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de mettre en place un système qui existe, et la justice fera son travail. On ne dit pas que tout ce qui a été fait restera impuni, ou tout ce qui va être fait va rester impuni, mais nous voulons d'abord stabiliser la situation et gérer tout ce qui est de nature à perturber le processus. Et je suis convaincu que nous allons arriver à bon port avec ce processus.
Donc, monsieur le ministre, vous répondez directement à la question de cet auditeur Katebe Akindou qui s'est demandé pourquoi le gouvernement ne maîtrisait pas la guerre en Ituri. Et il voulait savoir si c'était par manque de force ou par négligence. Qu'est-ce que vous pensez de cela, monsieur le ministre?
Il n'y a pas de négligence de toute façon. Vous savez que lorsqu'on fait une guérilla ou lorsqu'on est une milice, ce n'est pas qu'on a des objectifs précis. Est-ce que du FRPI ou du groupe de MRC ou du groupe de tous ces gens-là, y a-t-il quelqu'un qui a un cahier de charges qu'il réclame ou les intérêts de la population qu'il est en train de défendre? Je ne pense pas, mais ici c'est une situation qu'on a héritée où il y avait les gens qui ont voulu faire de tous ces groupes une débouchée pour pouvoir s'intégrer dans la société. Mais je crois que, à revenir à ce que le colonel Mbenga disait, on avait dit que d'ici le mois de janvier, on va retirer avec tous les postes d'intégration, ce qui va nous permettre de considérer tous ceux qui ne vont pas se joindre au FRDC comme déserteur, quelqu'un qui a violé le règlement militaire, et cette question va être gérée comme ça.
Oui, monsieur le ministre, en l'espace de 2 semaines, on a donc assisté à des attaques sur le camp des FRDC, mais est-ce que cette reprise des combats pourrait hypothéquer la tenue dans certaines zones d'Ituri des élections présidentielles et provinciales du 29 octobre prochain?
D'abord, notre souci et notre objectif, c'est que ces élections se passent comme elles se sont passées au premier tour et au niveau de législative. Et nous sommes aujourd'hui le 9, c'est-à-dire dans un jour, sur la tenue des élections. Et sans avoir parlé avec les commandants des opérations militaires et harmonisé avec les forces commandantes de la Monique, je ne serais même pas révélé les stratégies des opérations communes pour que les élections puissent se tenir dans les meilleures conditions, comme cela s'était passé lors du premier tour. Et puis, néanmoins, tous les efforts sont mis en place ou vont être mis en place pour que la situation ne puisse pas aller au pied.
Alors, Monsieur William Lassé-Swing, que préconise la MONUC pour l'Ituri avant les élections du 29 octobre? C'est la question qui se pose.
Bon, écoutez, moi je suis encouragé par ce qu'on a vécu dans le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire premièrement, pendant la période de 5 mois d'enregistrement des électeurs, pendant les 2 jours de référendum le 18-19 décembre et pendant les élections le 30 juillet, on n'a pas eu beaucoup de perturbations en Ituri. Au contraire, le peuple, ils ont voté dans le calme. Ils ont arrivé à une participation parmi les plus hautes au pays. Et je vois personnellement, pour le moment, aucune raison pour être inquiété pour la période devant nous. Ce que nous allons faire, nous allons continuer de faire exactement ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire d'être vigilants. Avec nos patrouilles, ils ont gardé encore presque un tiers de toute notre force en Ituri, presque 5 000 soldats parmi 17 400. On continuait de soutenir les efforts des 3 brigades, parce qu'il y a 3 brigades des FRDC maintenant en Ituri, et notre rôle est de soutenir les FRDC pour maintenir les conditions de paix. Nous essayons aussi de travailler main à la main avec le gouvernement, pour discuter, dialoguer avec les chefs de milice pour qu'ils sachent que leur avenir n'est pas avec une arme, mais avec le bulletin de vote.
Oui, colonel Jacques Ebenga, vous avez donc suivi cet entretien. Alors, comment stabiliser la situation avant le second tour des élections en Ituri?
Bon, j'ai eu une petite chance d'être en Ituri pendant la campagne avant les élections passées. J'ai été surpris par la quiétude qui régnait en ce moment-là. Et là, je rends hommage aux troupes congolaises et aux Nigènes qui ont dû certainement être pour beaucoup dans cet apaisement. Mais ce qui m'a inquiété, c'est que c'est après cela que les relents de belligérance ont repris à l'Ituri. C'est comme pour dire que le combat de ces miliciens n'est pas, je crois, n'a pas comme objectif de perturber les élections, mais de sauver leurs petits intérêts personnels, de grade ou peut-être des intérêts commerciaux et autres. Donc on peut pour cela penser que pour les élections, ils puissent être le même, qu'ils n'aient pas l'intention du tout de perturber les élections. Et si cela est le cas, tant mieux. Il faudrait donc que la MONUC et les forces congolaises sur place consolident cette situation qui avait été avant les élections dans cette partie du pays.
Oui, lieutenant-colonel Stéphane Lescotit, vous êtes porte-parole militaire de la MONUC. Il y a un auditeur qui vit ceci. Il s'appelle d'abord Aimé. Il nous écrit des Walikale sur Nord Kivu. Pourquoi ne pas faire de cette entité une entité sans armes avant le deuxième tour, comme c'est le cas ici à Kinshasa? Et nous savons que la MONUC participe effectivement à cette opération Kinshasa sans armes. Est-ce que ça pourrait être possible de faire la même chose pour ces localités de l'Ituri?
Savoir si ça peut être possible, c'est avant tout une décision politique de mener cette opération. Mais quand on voit ce qui se passe dans Kinshasa, on peut s'apercevoir en effet qu'au fur et à mesure, des armes sont récoltées et que le système fonctionne. Donc après, est-ce qu'on va le mettre un peu plus loin? Est-ce qu'on va vouloir le mettre dans d'autres provinces? C'est une question politique auquel je n'ai pas à répondre, mais je pense que les forces de la MONUC sont toujours prêtes à remplir les missions qu'on leur donne.
Oui, Monsieur Williamson, il y avait une opération qu'on appelait Bougna sans armes. Est-ce que cette opération pourrait s'étendre aussi dans d'autres localités du district de l'Ituri avant le deuxième tour des élections pour favoriser un peu la paix et la quiétude des habitants?
Moi, je crois que c'est pas quelque chose qui est formel, mais en soi, je crois que notre intention, notre approche, l'approche de FRDC, le MONUC en soutenant le FRDC, c'était toujours le même, que c'est plus ou moins un district sans armes. Mais c'est pas déclaré officiellement, mais c'est certainement l'attitude, parce que quel est le mandat le plus important pour le FRDC et pour le MONUC? C'est de protéger la vie civile. Et dans ce cas-là, on peut pas tolérer les armes qui ne sont pas là sans un ordre de mission. Dans ce sens-là, en réalité, c'est l'approche.
Oui, monsieur le ministre, qu'est-ce que vous pensez également de la proposition faite par cet auditeur qui nous a écrit des Walikale au Nord Kivu, il s'appelle Aimé.
Quelle est cette proposition, si vous pouvez me la rappeler?
Alors, il demandait pourquoi ne pas faire aussi des l'Ituri ou de certaines localités de l'Ituri une entité sans armes avant le deuxième tour des élections, comme c'est le cas ici à Kinshasa.
Oui, je crois que ça doit être l'objectif pour tout le Congo, c'est-à-dire les armes, là où elles doivent être. Mais maintenant, il faut étudier la possibilité de pouvoir récupérer toutes les armes là où elles sont. S'il y a des gens qui se trouvent encore en train de faire, de poser des actes ou de tendre des embuscades aux forces armées de la Mauritanie ou de la République démocratique du Congo, il faut une forte conscientisation. Mais ici, s'il faut qu'on le fasse, nous devons le faire certainement en partenariat avec la Mauritanie qui nous aide et qui peut nous aider à contrôler toutes les entrées. Vous savez qu'à Ituri, il y a le lac Albert qui fait la frontière avec l'Ouganda, où les forces armées de la République n'ont pas toujours les moyens de pouvoir contrôler la frontière. Donc il y a ce qu'il faut faire en amont, ce qu'il faut faire en aval, et ce qu'on doit faire ensemble. Pendant la campagne, avant les élections, Il y a certainement ce qui va être fait pour maîtriser la situation.
Oui, mais monsieur le ministre, est-ce que dans ce qu'il faut faire, on ne peut pas également mettre l'application même des engagements, des accords que vous avez signés avec ces miliciens au mois de juillet? Par exemple, nous avons appris que les miliciens de Mathieu Ngoudjolo et celui de ceux de Peter Karim étaient déjà prêts à entrer dans le centre des regroupements, mais c'est comme si les gouvernements ne répond pas à leurs attentes jusque-là.
Vous savez, il y a une question de logistique qui intervient toujours. Et dans toute gestion des opérations militaires, la logistique précède au lieu qu'elle suive. Et je sais aussi que notre grand partenaire dans cette gestion de la logistique, c'est la MONUC, à travers laquelle ou par laquelle nous recourons, par exemple, au transport de ceci et de cela. Il y a la CONADER qui a fait l'opération de transport des kits d'entrée et des kits de sortie en Ituri. Il fallait aménager le centre pour le regroupement de ces gens-là à Rwampara et ailleurs. Et tout ça sont des choses qui n'ont pas suivi à temps. Et c'est puisque le gouvernement n'a pas toujours les moyens qu'il faut pour le faire. Mais à moins la volonté politique est là. Et nous engageons puisque après la visite du vice-président Roubaix à Ituri, où j'ai fait de la délégation dans le Nord Kivu et dans le Sud Kivu, la décision avait été prise par le président de la République et le vice-président de Roubaix d'envoyer le coordonnateur de la structure de l'intégration et de la CONADER pour qu'ils aillent faire le travail que nous étions convenus avec la MONUC pour pouvoir démobiliser, désarmer ces gens-là et prendre ceux qui doivent aller vers le centre de brassage et de réinsertion.
Oui.
Donc c'est un travail, et là il fallait trouver un moyen qui permettrait que ces deux responsables puissent aller à Ituri le plus rapidement possible et faire ce travail-là.
Oui, monsieur Adolfo Nosumba, vous parlez des moyens. Heureusement, dans ce studio, nous sommes avec le représentant spécial secrétaire général des Nations Unies au Congo lui-même. Vous dites que la logistique doit venir de la MONU. Donc la MONUC n'a pas répondu à l'appel du gouvernement en ce qui concerne cette logistique pour regrouper ces miliciens qui sont prêts à rendre leurs armes.
Non, là, vous m'avez mal compris. Je ne dis pas que la logistique, c'est la MONUC qui doit la fournir. Et oui, la MONUC nous assiste que sur demande. Néanmoins, il y a ce qui devait être fait par le gouvernement et la CONADER et la sécurité d'intégration qui est en train d'être fait. Mais ça a pris du temps. Donc je ne peux pas en vouloir à la MONUC aujourd'hui, puisque la MONUC fait ce qu'elle fait, la MONUC a une mission spécifique.
Oui.
Et à moi, même dans le plan national, plan stratégique national sur l'intégration des fonds armés, il n'avait pas été prévu qu'il y aura le FNPI et tous ces groupes qui allaient changer pour que nous puissions gérer leur intégration en respectant toutes les activités de tronc commun telles que cela avait été convenu. Et à moi, on fait pour le mieux. Ce n'est pas un aveu de faiblesse ou quoi, mais ce sont des imprévus qui arrivent et qu'il faut gérer. Il faut gérer dans le délai pour ne pas être en retard par rapport aux engagements.
Oui, monsieur le ministre, je disais, comme nous sommes dans ce sujet avec les représentants spéciaux, secrétaire général des Nations Unies, peut-être qu'il peut nous dire quelque chose en rapport avec cette logistique. Monsieur Williamson.
Oui, effectivement, comme le ministre dit, nous travaillons très étroitement l'un avec l'autre, mais nous avons aussi certaines limitations en ce qui concerne la logistique, parce que c'est un vaste pays et nous sommes maintenant surtout très engagés dans le processus électoral. C'est la raison pour laquelle les opérations que nous avons faites dans le passé avec les FADC, surtout en Ituri et dans les deux Kivu, sont un peu plus limitées maintenant, dans le sens que toutes les flottes d'avions et les hélicoptères maintenant sont plus ou moins prises par les nécessités pour envoyer les kits électoraux et les bulletins de vote autour du pays. Nous avons avec l'Afrique du Sud, par exemple, faire acheminer ici 1200 tonnes métriques de kits électoraux pour les 50 000 bureaux de vote autour du pays. Mais nous sommes là ensemble avec vous, avec les FRDC, Nous avons aussi essayé, dans le cadre de groupes de contact, de chercher les voies et moyens pour soutenir les FRDC pour les choses minimales pour un bon soutien. Et on n'est pas encore si loin.
Oui, monsieur William Singh, donc les élections supplantent quelque part la situation sécuritaire sur le terrain.
Il y a une liaison entre les deux parce que on a un peu moins de moyens maintenant, mais suffisant quand même pour assurer une dispositif de sécurité qui est suffisante.
Oui, nous allons passer aux opinions des auditeurs brièvement, Babel Pongo, quelques opinions.
Oui, bon, nous commençons par Abou Milongo de Kisangani dans la province orientale. Il pense qu'il faut déployer les troupes de la MONU pour calmer la situation en Ituri avant les élections. André Muketo de Kananga, Kasai Occidental, demande aux autorités et à la MONU de prendre des dispositions nécessaires pour sécuriser cette partie du pays qui souffre tous les jours. Un autre auditeur pense que la préoccupation de la population de l'Ituri ne trouvera pas de réponse car le gouvernement n'a pas d'autorité et personne ne se soucie de la population.
Merci Babel Pongo. Alors, une petite réaction vite du ministre de la Défense par rapport à ses opinions des auditeurs. Nous avons 30 secondes, monsieur le ministre.
Oui, je ne suis pas d'accord à ce que un auditeur a dit que le gouvernement n'a pas d'autorité. Mais vous savez que l'Ituri, c'est une des parties de la République qui a connu le plus de problèmes. Vous savez qu'à un moment donné, là, à l'Ituri, il y a eu l'opération Licorne, c'est Artemis, il y a eu l'administration spéciale à l'Ituri, et tous ces problèmes-là ont contribué à ce que ils doivent reconnaître que le gouvernement a fait un effort, bien sûr avec l'aide de la communauté internationale, à pouvoir ramener l'autorité de l'État qui n'existait pas à un moment donné dans cette partie de la République. Donc il y a lieu d'être positif, et comme l'a dit le représentant spécial, il faut combiner l'utile et l'agréable pour permettre à ce que nous arrivons au résultat qui soit équilibré en vue de donner d'abord à cette population la chance de se choisir ses dirigeants. Et aussi d'établir la démocratie dans cette partie de la République.
Merci monsieur le ministre, et c'est la fin donc de cette émission. Les temps nous impartis ne nous permet pas d'appeler tous nos invités à réagir par rapport à ces opinions des auditeurs. Et au nom de toute l'équipe des dialogues entre Congolais, nous vous disons au revoir et à la prochaine.
Okapi, okapi.